Cascodeur Podcast, épisode 227. Télétravailler une Corona dans une main et un gamin dans l'autre. Enregistré le 13 mars 2020. Bonjour et bienvenue au Cascodeur, épisode 227. Nous sommes le 13 mars 2020. Nous sommes encore vivants pour l'instant.
Oui, parce que voilà, Emmanuel, voilà. T'as quand même fait une nuit blanche là. T'étais où? T'étais en discothèque?
J'ai fait deux nuits blanches.
T'as fait deux nuits blanches?
Ouais, c'était un peu long. En fait, cette semaine, il y a pas mal de gens qui ont fait des nuits blanches, de ce que j'ai compris. Donc moi, c'est parce que ma femme vient d'accoucher de notre deuxième bébé. Et wow. Du coup, ça a été un petit peu long. Ça s'est super bien passé, mais les deux nuits blanches, les fausses nuits blanches, parce que tu dors une demi-heure par-ci, une heure par-là. Mais bon, on a vieilli.
Donc, Monsieur Bernard, un deuxième gamin, a squatté un lit dans tous les hôpitaux qui sont pleins de coronavirus. Est-ce bien raisonnable?
Ouais. Bah, écoute, nous, on est à la Pitié-Salpêtrière. Et à la Pitié-Salpêtrière, c'est un énorme hôpital. Pour ceux qui savent pas, c'est littéralement un campus. Et donc, on peut aller se promener. Il y a beaucoup d'espaces verts, etc.
Mais t'étais juste à côté de la maison. T'aurais dû m'appeler. Je serais passé te voir à 4 heures du mat.
Ouais, alors justement, ils recommandent pas les visites. En fait, même, ils les interdisent. Mais en tout cas, il y a un chemin spécifique pour les gens qui ont des suspicions de coronavirus.
Ouais. Carrément, d'accord.
Ouais.
Ouais, on entend en news, il n'y a que des gens de la Pitié-Salpêtrière qui parlent, effectivement, beaucoup d'épidémiologie.
Voilà.
Bon, mais donc, le coronavirus, ça n'a pas que un impact dans les hôpitaux, non? Les boîtes aussi,
Et ouais, les boîtes aussi. Ben, alors, on va parler des boîtes, puis après, on va parler des gens qui essayent de faire des conférences. Mais les boîtes, effectivement, je voulais en parler parce que je sais pas comment les boîtes françaises réagissent. Moi, je sais que j'ai parlé à mon frère et sa femme et Hugo. Du coup, t'avais une boîte qui avait dit « Oh, bah, de toute façon, c'est parti, donc on met plus de politique de restrictions. » Je sais que nous, Red Hat, je sais Google et un certain nombre d'autres, il y a des politiques assez strictes de « Bon, bah, il y a une suspicion, on vous recommande de travailler à la maison. » Toutes les voyages non essentiels, non business critical, avec un niveau de business critical qui est assez élevé, sont interdits. Voilà, du coup, ça, ils se disent bon bah on sait travailler à distance, bon bah on rate un événement, c'est pas la fin du monde et les gens restent sains et du coup voilà ils font leur participation là-dessus, ils prennent ça assez au sérieux. Je sais pas, par exemple XWiki, si vous avez mis des choses en place.
Ouais, on a communiqué, on a déjà on fait relativement souvent du télétravail, donc on a commencé par dire ceux qui veulent en faire autant qu'ils veulent, ils peuvent. Et là, on a encore changé ça il y a deux jours. On a renvoyé une information à tout le monde en disant on vous recommande de faire de tout le monde en télétravail, partout, dans tous les bureaux, Paris, Roumanie, etc.
Oui, mais là, je pense que c'est justement une grosse différence avec les boîtes de soft qui sont habituées au télétravail et les autres. Moi, là, il y a quelques jours, je déjeunais avec un client que je n'aimerais pas. Grosse institution, et en fait ce qui s'était passé en 2013 je crois, lorsqu'il y avait eu le SRAS, comme c'est une institution française, donc imaginez tous les ministères, ils avaient mis en place du télétravail en cas de pandémie. En 2013, donc imaginez les mecs qui bossent sur des VPN, des ordinateurs, des clés de cryptage, etc., etc. Le SRAS passe, on est en 2020, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans que les mecs ont pas fait de télétravail, et là rebelote quoi. C'est les mecs qui se remettent à bosser sur Flute. C'était quoi la clé de cryptage? Qui a lu la doc? Mais comment on fait? Donc voilà, c'est un peu tristoun, mais il y a de fortes chances qu'après ce coronavirus, les institutions fassent comme avant. C'est-à-dire que le télétravail, c'est que en cas de gros soucis. Et puis comme c'est tous les 6 ou 7 ans, bah pendant 6 ou 7 ans, les gens oublient et savent pas vraiment bosser en télétravail, parce que en gros tout ce qu'ils ont c'est un VPN avec un ordinateur un peu sécurisé, mais les stand-up meetings en remote ils savent pas faire, les outils en remote ils savent pas faire. Donc bon, voilà.
Ouais, via... s'ils ont ressorti l'ordinateur transportable sécurisé qui était à la pointe en 2013.
En plus, ouais. Bah maintenant, maintenant ça va être les crèches. Est-ce que les Google et les Red Hat, vous faites quoi avec vos mômes là à partir de lundi?
Bah moi j'ai un peu de la chance entre guillemets, parce que enfin de toute façon je vais me mettre en quarantaine tout seul, puisqu'on va éviter que le gamin de quelques jours attrape ce truc là parce qu'on sait pas trop ce que ça fait. Voilà. Et puis au niveau du bureau en France, bah là hier soir, donc on a appris que les crèches des crèches jusqu'aux universités allaient fermer, et du coup ben c'est un peu la question ouverte, on sait pas encore. Je pense qu'il y aura une communication dans la journée, mais pour l'instant on n'a pas d'infos.
Ouais, parce que le télétravail c'est bien, mais le télétravail avec des mômes qui vous tournent autour, c'est juste pas possible.
Ouais, ça dépend de l'âge,
c'est vrai que là je vois pas comment les boîtes. Ouais, ouais.
Ça dépend de l'âge des enfants, effectivement. Sur les enfants en bas âge, c'est plus compliqué. Ouais. C'est sûr.
Ouais. Oui, parce que si tu fais des centres d'accueil, c'est comme si c'était les écoles, donc ça ne sert à rien.
Oui, bah oui.
Voilà. Bon, et oui, et du coup, des conférences. Alors, on va lister un certain nombre de conférences qui ont été annulées ou en cours d'annulation ou de redécalage ou de virtualisation à la fin dans notre rubrique conférences. Mais Antonio, toi, tu étais dans le cœur du cyclone. Tu n'as pas forcément envie de tout dire, mais au niveau de Devox France, voilà, vous avez vu ça en temps réel, quoi.
Bah, éventuellement, Emmanuel, est-ce que tu veux qu'on parle des différentes confs alors, comme ça, on...
Ouais, on a qu'à faire ça, ouais.
Donc, bon, alors, si vous avez suivi, là, il y a eu énormément de confs qui ont été annulés, reportés, des nouvelles dates, des confs qui sont passées en virtuel. Et mine de rien, il y a beaucoup de confs en France. Donc, il y a eu... Il y a eu le Brescamp qui avait lieu à fin mars, c'est-à-dire dans quelques jours. Donc, ils ont annulé, eux. Mixit à Lyon, pareil. C'était fin avril. C'était juste après Devox France. Ils ont annulé aussi. Le Riviera Dev, c'est au mois de mai. Je crois que c'est pas annulé.
Alors, si, donc... c'est pas officiel au moment où on enregistre, mais ça sera annoncé lundi, donc ils ont décidé d'annuler.
Ah,
comme on va publier après lundi, donc je me permets de le dire avec leur accord.
Devox UK qui est repoussé ou qui va passer en virtuel, je sais pas. Ouais, je sais pas trop. Best of Web début juin annulé. DevFest Lille juin annulé. Vox des Luxembourg. Ah non, c'est pas annulé DevFest Lille. Ah, flûte là, vous voyez, même moi je suis un peu perdu là. Et puis il y a les nouvelles dates pour le Serverless Day qui est passé au 1er juillet. Devox France hein, qui passe de mi-mars à début juillet. Et le Sun Tech Days qui lui reste toujours au mois de juillet. Donc,
ouais, le Sunny Tech, ouais, Sunny qui est à
Montpellier. Ça va être amusant, hein, parce que tout, moi aussi j'en ai plein d'annulés, mais même des projets de recherche européens et des meetings, etc., tout est annulé et tout repart sans juillet. Donc ça va être très amusant.
Oui.
C'est un mois très chargé.
Oui, je pense que l'été sera chaud. Ouais. Bah, nous, à Devox France avait lieu à la mi-avril. Et en fait, on a eu plein de soucis avec Devox France, puisque au début, le gouvernement a dit les événements de plus de 5000 personnes sont annulés. Devox France, c'est 3000 personnes, donc bon, ben voilà, ben nous, on n'annule pas. Et on n'avait pas le choix. En fait, Devox France, on s'est rendu compte qu'on est au milieu, à la croisée des chemins, qui est pas une situation confortable en fait, puisque lorsque vous avez un Google I/O qui est annule, bon, je sais pas combien de millions de dollars Google perd, mais vous imaginez bien que c'est peanuts. Donc ils annulent. Si vous avez un événement communautaire qui se passe dans une université, ils annulent. Ils remboursent les gens, mais l'université, en fait, elle coûte que dalle. Et nous, on est un peu au milieu. On n'est pas professionnel, c'est-à-dire que c'est pas notre métier. On fait tous un boulot ou à côté. Devox, ça nous nourrit pas. Mais par contre, on fait pas ça dans une université. On fait ça au Palais des Congrès. Et vous imaginez bien que le Palais des Congrès, on le réserve 2 années à l'avance. C'est pas le truc qu'on book 15 jours avant, quoi. Et quand vous réservez, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous payez. Et c'est pas 1000 balles. Donc, lorsque le gouvernement, il dit à plus de 5000 personnes, vous annulez, ben, nous, on peut pas. Parce que si on annule, on se retourne vers le palais et on lui dit, au fait, l'argent qu'on t'a donné il y a 9 mois, est-ce que tu veux bien le rendre? Et le palais, il va dire, bah, pourquoi? Parce que la loi, elle a pas dit, Devox, t'es autorisé à annuler cet événement. Donc, c'était pas une situation facile. On attendait, on parlait avec tout le monde, la préfecture, etc. Lorsque le gouvernement a dit les événements de plus de 1000 personnes sont annulés, on a eu un deuxième coup de chaud parce que c'était jusqu'au 15 avril. Et en fait, on a dû contacter la préfecture pour savoir si ça incluait le 15 avril ou pas, puisque Devox, c'était le 15, 16, 17. Coup de bol, c'était au 15 inclus. Et donc là, on a pu appeler le Palais des Congrès et leur dire, écoutez, on peut faire une conférence le 16 et le 17, mais pas le 15. Comme notre contrat cite le 15, 16, 17, le contrat est caduque. Et vous imaginez bien aussi que le Palais des Congrès, son métier, c'est faire des événements, bookés à 2 ou 3 ou 4 ans même. Et donc là, ils ont tous leurs clients qui disent « décale-moi ». Bref, c'était un casse-tête. C'était pas facile, on n'a pas beaucoup dormi, là, c'était un peu prise de tête, mais tout est bien qui finit bien. Donc oui, il y aura Devox France le 1er, le 2 et le 3 juillet.
Si, voilà. Si c'est possible. Hein.
Ouais, bien sûr.
Sachant que sur Paris, il y avait un autre gros centre de conférence qui s'appelle le CNIT, qui a été fermé parce qu'il y a des travaux, parce qu'il y a une extension du métro, ce qui fait que c'était déjà tendu en fait pour trouver des endroits pour faire des grosses confs. Oui. Donc là, là on a encore retendu le slip qui était tendu.
Bon, et puis il faut savoir que le Palais des Congrès, le CNIT, Porte de Versailles, le Bourget, tout ça, c'est la même boîte qui s'appelle Viparis. Donc voilà, ils ont pu le CNIT, les clients annulent et ils essayent d'en mettre au palais, d'autres à Porte de Versailles. Imaginez un peu le Google Calendar avec des trous qui se déplacent, bref. C'était pas facile pour eux non plus parce qu'ils nous appelaient même le dimanche, ce qui est exceptionnel pour une boîte comme ça.
D'accord. Bon, on va se lancer dans le Java,
dans le développement,
ouais. Dans le tech. Alors, ou dans la tech plutôt, parce que le tech, c'est un bois. Oui. Alors, on va parler des langages d'abord, et puis je sais pas pourquoi, mais enfin si, c'est la nouvelle année, donc c'est la saison des mon langage est plus utilisé que le tien. Et donc il y a Redmond qui sort son classement avec alors c'est toujours à prendre avec des pincettes sur quoi il s'appuie, etc. Redmond, je crois qu'il s'appuie sur les stars GitHub et sur les je sais plus quoi d'autre.
Alors et, GitHub et puis Stack Overflow.
Et Stack Overflow, voilà, c'est ça. Voilà, le TOBE, c'est plutôt les recherches Google, le TIOB, voilà. Il y en a d'autres, c'est juste, on a demandé à nos clients, voilà. Et donc, c'est toujours un peu biaisé, parce que ça dépend qui répond. Mais en tout cas, voilà, Redmond, JavaScript en premier, ensuite Python, qui, grâce au machine learning, fait une belle progression.
Numéro 2.
Voilà. Ouais. Et puis Java, numéro 3, voilà.
Alors, ils le mettent en numéro 2 avec Python, mais juste en dessous. Donc, c'est assez marrant. Ils mettent JavaScript.
C'est deux numéros 2.
Ouais, ouais, Python 2 et Java 2, et il n'y a pas de 3, puisque le 4, c'est du PHP.
Voilà. Et oui, j'avais pas noté, merci de me rappeler ça. Et puis TypeScript qui est arrivé dans le top 10.
Yes.
R qui monte aussi, on voit bien le machine learning. Hein. Rust s'est stabilisé, donc sa croissance, est, en tout cas cette année, sur cette approche-là, c'est arrêté. Et puis les deux autres qu'on voit sur la machine virtuelle, c'est Scala qui est numéro 13 et Kotlin qui vient de rentrer dans le top 20, qui est numéro 19.
Qui fait plus 1 et Scala qui fait 0. Ouais.
Ouais.
Alors, il y a quand même un truc assez marrant, c'est que Dart fait un bond de plus 3 et passe à la 24e position, Dart. Et en fait, ouais. On se dit, pourquoi ? Et effectivement, je me suis dit, pourquoi ? Parce que Flutter utilise Dart, en fait. La montée de Dart, c'est lié au framework Flutter. Voilà.
Et donc ça vous, tu le vois, toi, chez les clients, par exemple
ou... Ah non, oh là là, non.
Ouh là là, je ne touche pas à ça. Non, mais c'est intéressant, ouais. C'est intéressant qu'un framework arrive à driver un langage, ouais.
Oui.
Mais d'ailleurs, c'est un peu Python, c'est ça, c'est un cas d'utilisation. En fait, on le voit souvent, par contre, pour le coup, un cas d'utilisation, un langage se spécialise un peu sur un des cas d'utilisation. Donc Java, c'est le Enterprise Development. Python, là, trouve son espace a toujours trouvé son espace dans la recherche et le calcul. Mais du coup, le tout ce qui est machine learning, en fait, est une extension de ça. Donc c'est intéressant.
Oui.
Voilà. Et puis, on a un méta-sondage d'InfoQ qui s'est dit, il y en a 4 ou 5 des informations là-dessus, donc des sondages là-dessus, et donc ce que disent InfoQ, j'ai regardé 2-3 news, donc Java 8 reste le plus déployé en prod, pas surprenant, parce que les boîtes ne mettent pas à jour une fois que c'est déployé, hein. Bon, dommage, mais voilà. Cela dit, quand même, 25% des gens sont sur Java 11, et puis les non long-term support sont bien derrière. Spring est entre 60 et 80%, donc dans l'agrégation de tous ces sondages.
Et alors, j'ai pas vu le distinguo entre Spring et Spring Boot. Hein. Ils disent Spring, donc on ne sait pas ce que.
Ouais, après ils disent que c'est quand même beaucoup Spring Boot quand les gens en parlent de ce que j'ai lu de mémoire. Et puis IntelliJ 60 à 80%, Eclipse 20-25, et puis Maven Gradle c'est soit du 50-50, soit c'est du 66-33 pour Maven.
C'est-à-dire que
Gradle c'est un gros morceau maintenant. Ouais, absolument.
Mais c'est là que tu vois que leurs chiffres n'étaient pas super fiables parce qu'ils disent selon si vous prenez tel critère, c'est 50-50, mais tel autre, c'est 2/3.
Non, mais parce que c'est une méta-recherche. Enfin, c'est une accumulation des 5 sondages. Et donc, les sondages, ils disent entre 50-50 et 66-33. C'est pour ça que c'est très variable là, sur le méta-sondage InfoQ. Voilà. Ensuite, Scala a aussi fait une étude des gens qui font du Scala. Il y a des infos que je trouve intéressantes. Donc, vous utilisez Scala depuis combien de temps? 61% l'utilisent depuis plus de 3 ans et les autres moins. Ensuite, il y a en gros 3500 qui répondent, je l'utilise pour dans ma société, 2500 pour mes projets personnels, et puis après ça descend un petit peu, mais donc on voit que c'est quand même en entreprise hein, parmi les utilisations.
Oui, parce que ils utilisent pas trop Scala pour enseigner l'informatique, puisqu'il y a une colonne, c'est as teaching vehicle, et on voit que il y en a pas tant que ça en fait.
Ouais, c'est quand même pas un langage de débutant.
Ouais, c'est quand même pas un langage de débutant. Ouais.
Ouais. Et quelle version ? Alors, vous savez, les versions de Scala, il y a pas de compatibilité entre les versions micro et mineures garanties. Donc, il y a un peu une fragmentation à ce niveau-là. Mais la majorité, c'est autour de 2.12, sachant que la 2.13 est sortie. Et 2.ti, qui est le Scala 3, je crois, plus ou moins, est encore mineur. Voilà, et en termes de déploiement, puisque Scala, ça tourne sur... WGDK, on s'en fout, en fait. Quelle version
GDK,
Java
utilisez? Oui, c'est plus sur WGDK 8, ouais.
Quelle version de Java vous utilisez? Voilà, plutôt Java 8. La moitié de ceux qui utilisent... Enfin, pardon, en volume, c'est que la moitié qui sont sur Java 11 et très peu au-dessus de Java 11. Qu'est-ce que vous utilisez comme outil de ligne de commande pour construire vos builds? Donc SBT reste majoritaire, qui est le langage, enfin
le simple build tool.
Ouais. Quelle est la plateforme d'exécution? Donc, Scala peut tourner sur la JVM, mais ailleurs aussi, compilation native, compilation JavaScript. Donc, la JVM reste très dominante. Hein, 99,3% des utilisateurs de Scala utilisent la JVM. Sachant qu'il y a des usages multiples. Hein, multiples. Donc, JavaScript, par exemple, c'est sur 13%. On en reparlera un petit peu après. Beaucoup d'utilisateurs d'IntelliJ, même majoritaires. Et puis,
Ce qui est intéressant, c'est que Scala est beaucoup utilisé pour les microservices, puisqu'il y a un peu de data science, un peu de back-end, un peu de front-end, mais on voit que Scala est essentiellement utilisé pour les microservices.
Et les streaming data, ce qui est en gros un microservice qui va aller rentrer des événements et sortir des événements. Et là, on voit très probablement l'influence de Akka, qui est donc une plateforme qui permet de ce genre de développement. Voilà. Et puis, quels sont vos problèmes principaux autour de Scala, enfin parmi ceux que vous avez? Et donc, bon, bah les temps de compilation. Donc ça, c'est pas une surprise. La gestion des erreurs, de missing implicit errors. Voilà. Et débugger les logiques compliquées.
Aussi, ouais.
C'est intéressant, c'est-à-dire que voilà, quand ça se passe pas bien, c'est le niveau d'abstraction peut-être rend ça difficile. Voilà. Et puis SBT est quand même assez dominant dans les trucs que les gens sur lesquels ils ont des problèmes ou ils préféraient un petit peu autre chose. Voilà. C'était un petit retour intéressant.
On reste toujours avec Scala.
Ouais.
Je vois qu'il y a la Scala JS.
Ouais. Donc c'est justement, t'écris du Scala, mais pour du front-end, et du coup, ça transpile en JavaScript.
Alors, je sais pas vous, mais ça, on a toute une histoire en Java qui fait ça. Ça a jamais décollé quand même. Souvenez-vous de, ça s'appelait comment? Duke Script. Et Duke Script, c'est Jiroslav, l'ancien d'Oracle, qui a lancé ça il y a quelques années, et on écrit en Java et ça transpile en JS. Bon, voilà. Pourtant, c'est en version, je sais pas trop quoi. Donc, le projet avance. Il y a un autre projet. Alors là, pour le coup, que je connais mieux, G Suite, parce que c'est un des anciens profs que je connaissais là. Renaud Palouac, mais le projet fonctionne encore, enfin il tourne encore, il est en version 2. Je sais pas trop quoi. Et G Suite, c'est ça, c'est vous prenez, vous tapez du code Java et ça transpile en JS. Donc entre Duke Script, G Suite, et je crois qu'il y en avait un autre
Correct. Alors, tu avais fait GWT.
GWT aussi, c'est vrai. Oui. Ouais. Et bon. On verra voilà. Bien Scala JS.
En tout cas, si vous utilisez Scala JS, sachez que la version 1.0.0 n'est pas backward binary compatible avec la 1.0 RC, la dernière RC. Donc il y a eu encore des changements, donc il faut recompiler vos librairies et vos applications. Voilà. Sinon, GraalVM. Donc GraalVM, c'est un projet historiquement de, enfin c'est un projet. Qui est essentiellement contribué par Oracle Lab, qui est disponible sur GitHub sous la licence GPL avec ClassPass Exception. Et ils se sont dotés d'un advisory board. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on a donc Red Hat, on est pas mal intéressé par GraalVM via Quarkus. Et donc, on les a beaucoup poussés à avoir une gouvernance neutre. Et c'est quelque chose qui vient plus ou moins naturellement en fonction des projets, des équipes et de leur historique. Et donc, en tout cas, les gens d'Oracle ont accepté de lancer cette idée de advisory board à la suite du community meeting qu'on a eu en novembre. Et du coup, il y a un certain nombre d'acteurs là-dedans. Alors, j'ai pas les noms des personnes, mais en tout cas les sociétés. Donc, il y a Gluon avec JavaFX qui tourne sur GraalVM, il y a Red Hat, Amazon, Ella, Microdoc, Shopify, Twitter, OCI, qui sont les gens derrière Micronaut, Neo4j, Pivotal, qui sont les gens derrière Spring, évidemment, Arm, Et puis évidemment Oracle. Et du coup, bah, moi je trouve que ça c'est super, ça montre la bonne volonté de tout le monde d'essayer de construire une communauté derrière ce projet-là et pas juste un one man project.
Mais alors, est-ce que d'après toi, ça va faire comme le JCP ou est-ce que
non, le modèle c'est plutôt une gouvernance à la OpenJDK. En tout cas, nous, ce qu'on aimerait, c'est quelque chose qui est neutre, sur lequel, si je contribue correctement, j'ai droit de commit et j'ai droit de feedback sur un peu comment les choses vont. Voilà, donc ça prend du temps, hein, parce qu'OpenJDK, ça s'est pas construit en une minute, hein, cette gouvernance, mais maintenant, il y a une gouvernance plutôt prisé. Donc voilà, c'est ça. En tout cas, l'objectif de Red Hat, c'est ça, et d'un certain nombre d'autres acteurs dans ce advisory board.
Non, parce que le JCP, c'était un peu, il y a mille et une boîtes, mais l'expert committee tout en haut, ça doit être un mec d'Oracle. Je ne sais plus quel était son nom, là, le chair de tout en haut. Et donc c'était un peu particulier parce que il y avait plein de boîtes qui faisaient partie des JSR, des différentes specs, qui faisaient aussi partie de l'executive committee, mais tout en haut, ça devait être un employé Oracle. Là, c'est pas du tout le cas alors.
Alors là, bah, ça le reste de facto parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de développements qui sont pas faits 100% ouverts. Parce qu'en fait, c'est des choses qui sont faites derrière le VPN Oracle, parce que je sais pas, mais en tout cas, ils ont beaucoup de tests de suite qui font tourner GraalVM dans Oracle DB, je sais pas combien, etc., etc. Et c'est pas des tests qui peuvent open sourcer et rendre disponibles. Mais par contre, on essaie de voir avec eux comment on peut faire pour bouger quand même la majorité de leur développement ouvert vers l'extérieur, même si c'est eux qui le font. Parce qu'en fait, la visibilité, la transparence des choses qui sont faites, des décisions, de pouvoir influencer ou accepter la raison pour laquelle les choses ont été faites, c'est hyper important pour se sentir en confiance et d'investir sur ce projet-là. Donc, d'accord. Voilà, c'est un chemin. C'est un
ouais,
chemin.
Ok.
Voilà, Azul. Oui, Azul, non, mais... Azul a... Alors c'est bizarre, ils ont reçu un investissement de 340 millions de dollars et qui est plus ou moins un achat. Donc les investisseurs initiaux ont été rémunérés à hauteur de 340 millions, mais c'est aussi un investissement comme si quelqu'un rajoutait de l'argent dans un round supplémentaire de startup. Mais du coup, c'est un truc un peu intermédiaire. Donc en tout cas, Azul est là pour un certain temps encore, puisque avec ce volume d'argent là, on peut quand même faire des choses, j'imagine. Donc c'est cool. Azul qui est le mainteneur de, je sais plus quelle version du JDK, la très vieille, je crois, la 6 de mémoire.
Oui, puis c'est Azul qui est pas mal utilisé dans Microsoft Azure pour le coup.
Oui, je crois qu'il parlait de ça. Ouais,
donc ça leur fait aussi pas mal d'utilisateurs, je pense.
Un revenu, ouais. On va passer aux librairies. Donc Eclipse Microprofile GraphQL 1.0 est sorti, donc c'est une spec. Donc après il y aura une ou plusieurs implémentations. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Eclipse Microprofile, c'est un ensemble de specs qui sont dirigés vers le cloud native, qui sont qu'on peut agréger ensemble, mais qui sont indépendantes les unes des autres aussi potentiellement. Et donc ça offre une API sur une problématique donnée. Voilà. Et donc dans ce cas-là, c'est GraphQL. Et du coup, c'est une spec pour exprimer les points d'entrée, les endpoints, mais sous forme de points endpoint GraphQL. Et du coup, d'exposer le schéma GraphQL, d'exécuter les requêtes, donc le endpoint qui va dire bah, pour telle requête, je vais recevoir le format de la requête, et puis après c'est à vous d'implémenter les choses. Et puis c'est code first, c'est-à-dire que vous allez annoter en fait des objets Java, et puis ça va générer le schéma GraphQL qui est exposé et utilisable par des clients du coup. Donc je vous encourage à aller voir ça.
Par contre, c'est GraphQL 1.0, mais à ce que j'ai compris, ça fait pas encore partie de microprofil, enfin de la umbrella spec microprofil. On est en 3.2.
Ouais.
Et je crois que c'est pas encore rentré dedans, c'est ça. Hein.
Ouais, mais cela dit, il y a des débats très intéressants en ce moment sur, parce que là, on est à la microprofil 3.x, et puis là, ils réfléchissent à la 4, et ils réfléchissent à ce que ça veut dire d'être compatible en tant que plateforme, c'est-à-dire d'avoir un ensemble de specs micro-profils et que toutes soient implémentées. Enfin, toutes celles qui sont dans la plateforme, un petit peu comme Java E, en fait, mais à une échelle beaucoup moindre. Et là, il y a pas mal de débats parce que MicroProfil s'appuie sur certaines specs, notamment CDI et JPA. Techniquement, c'est pour passer le TCK, CDI ou Jakarta Dependency Injection maintenant, Context Dependency Injection, eh bien, il faut, en fait, il se trouve que techniquement, enfin, dans les specs aujourd'hui, il faut être compatible Java E en entier. Du coup, là, il y a pas mal de débats qui sont ouverts au sein de la communauté MicroProfil sur qu'est-ce que c'est la notion de plateforme? Est-ce que ça a toujours du sens? Quels sont les TCK qu'on veut passer? Quelle partie des TCK? Donc, il y a beaucoup de discussions autour de ça. Là, ça bouge pas mal, littéralement, ces jours-ci.
Oui, puis il y a eu une annonce là ce matin faite par Red Hat sur CDI qui va, a priori, évoluer vers un CDI Lite. Puisque
une proposition. Ouais, ça vient de certains travaux. Donc nous, CDI, ça a 10 ans. Et puis, c'était fait sur des applications très monolithiques avec des déploiements tels qu'on le connaissait centrés autour de Java E. Et maintenant, on est plutôt dans des déploiements, que ce soit Spring Boot ou Quarkus ou Micronautes, voilà, sur des déploiements qui ont shifté un peu en termes d'objectifs, et notamment Quarkus et Micronautes avec tout ce travail au niveau build time. Et du coup, il y a des fonctionnalités qui sont pas si utilisé que ça parfois, et ou en tout cas qui pose des problèmes à ce travail build time sur lequel il faudrait les réinventer ou faudrait juste les enlever. Voilà, donc il y a cette idée de dire qu'est-ce qu'on peut prendre de CDI pour faire un nouveau socle moderne, en fait. Voilà, mais là encore c'est un début de discussion.
Longtemps que je regardais CDI comme moteur de dependency injection pour XWiki, le début de XWiki en fait. Enfin, et dès que CDI est arrivé. Et on l'avait pas choisi parce que il était trop statique, il n'y avait pas de dynamisme, tu pouvais pas enregistrer dynamiquement des nouveaux bins en fait. Il fallait que tu les définisses statiquement toutes tes injections, enfin tes dépendances, etc. Et je me souviens que j'avais créé une issue Jira pour supporter ce truc dynamique, et ça a été repoussé, on m'avait dit c'est en 2.0, puis après ça, enfin en 1 d'abord, puis en 2.0, etc. Donc là-dessus, est-ce que ça, tu sais, tu as des informations sur est-ce que c'est prévu de prendre ça en compte?
Là, la tendance est plutôt d'aller encore pire, parce que tu pouvais, enfin, disons que tu peux pas aller en rajouter une fois que tu as démarré ton
client. C'est obligé de réinitialiser tout le truc, sinon.
Ouais. Voilà, c'est ça. Et alors, malheureusement, pour ton cas d'utilisation, on a tendance à aller encore plus vers ça. C'est-à-dire que CDI, il pouvait définir des points, au moment de son démarrage, définir des nouveaux points, d'en inventer avec une API qui est appelée dynamique. Et c'est même ça qu'on veut essayer de sortir de la, une partie de ça qu'on veut sortir de la spec. Parce que quand on fait du travail au build time comme Quarkus ou Micronautes, cette capacité à rajouter des bins au moment du runtime dynamiquement, ça casse cette capacité à faire de l'injection de dépendance statique. Voilà, exactement.
Oui, puis c'est pour ça que Quarkus n'utilise pas Weld. Vous avez créé Arc parce que il fallait virer tous ces points d'extension. C'est pour ça, c'est ça. Hein.
En fait, on a écrit Arc parce qu'on voulait quelque chose qui ne dépende pas de proxy, de réflexion. Qui étaient des choses qui étaient coûteuses ou compliquées à implémenter dans le cas de GraalVM, en fait. Ouais. Et du coup, ce qu'on voulait, c'était de résoudre tous les points au moment du build. Ce qui est le cas de la plupart des applications, sauf des applications de type XWiki qui sont des containers eux-mêmes, en fait, quand on réfléchit. Et du coup, effectivement, là, c'est un cas.
Pour revenir, j'ai une question. Pour revenir à GraphQL, GraphQL, c'était... parce que là, on parle de micro-profil, GraphQL, donc une spec. GraphQL, il n'y a pas de spec à la base de GraphQL?
Si, il y a une spec. Alors GraphQL à la base, c'est Facebook. Et puis ils ont défini une spec qui est en version 0.8 de mémoire. Mais bon, après les chiffres, maintenant ça ne veut plus rien dire. Et du coup, si tu vas sur graphql.org, tu vas avoir cette information-là. Mais en l'occurrence, de mémoire, je crois que Jean-François James, qui, contrairement à ce que son nom indique, parle bien français, et qui a participé à Eclipse Micro Profile microprofile GraphQL, donc peut-être c'est l'interview qu'on devrait faire.
Donc la microprofile GraphQL va plus loin que l'aspect GraphQL, j'imagine, et spécifie des choses qui n'étaient pas spécifiées.
Non, c'est pas ça. L'aspect, elle définit des formats d'interaction, c'est-à-dire les formats de messages et comment tu décris une requête, comment tu décris. En fait, ça, GraphQL, ça dit, voilà, je pars de telle entité, je définis les types d'entités et leurs relations, et je définis une requête et puis des restrictions, et puis aussi le graphe que je veux ramener. Je veux pas ramener toutes les entités possibles et imaginables, mais aller que jusqu'à trois niveaux de dépendance pour d'interaction, enfin d'indirection pour celle-là, donc genre user, point...
Ça, c'est parce qu'on veut générer, c'est parce qu'il y a une adresse,
voilà, ce genre de choses.
C'est ce que si.
En fait, ce qu'on veut à la base dans GraphQL, c'est que on veut pas une explosion du nombre de points d'entrée reste.
Je connais effectivement. L'idée, c'est d'avoir effectivement pas trop d'appels serveurs, d'en avoir un seul qui ramène tout ce qu'il faut en une fois pour définir ton UI, afficher ton UI.
Ouais, alors tu as deux façons de le faire. Soit tu as un point d'entrée pour chaque type de graphe que tu veux ramener, soit tu as GraphQL qui te permet d'exprimer ça.
Voilà, mais du coup, pour moi, quand j'avais regardé, c'était extrêmement libre. C'est toi qui implémentais, c'est très libre. Tu ramenais ce que tu voulais, en fait. Du coup, c'était côté serveur.
Ouais, ça change pas du tout. C'est-à-dire qu'effectivement, le point difficile de GraphQL, c'est d'implémenter les requêtes derrière, mais ça, il n'y a personne qui s'y attaque. J'ai l'impression. Voilà, rapidement, Apache Camel a réalisé la 3.1.0. Ils ont fait pas mal d'améliorations en termes de consommation mémoire et donc ils vont ne plus supporter Camel 3.0 et vous encourage à migrer. Et on a mis le lien vers le guide de migration. Donc il y a un certain nombre de composants, notamment des composants qui vont plus dépendre de servlets comme HTTP Netty, Camel Netty HTTP, Camel Undertow. Voilà, un certain nombre de petits changements autour de ça. Donc, regardez si c'est des composants que vous utilisez pour voir si vous devez faire une petite migration. Voilà. En parlant d'argent, Lightband a reçu 25 millions d'investissements de Dell Capital. C'est sur la partie réactive. Alors Lightband, on le connaît parce que c'est les gens qui font Scala, c'est aussi les gens qui font Akka, et en ce moment ils sont beaucoup sur le modèle de stateful serverless, donc stateful function, ou enfin comment gérer l'état dans les functions as a service, et du coup ils ont reçu de l'investissement de Dell autour de ça.
Dell qui a aussi Pivotal derrière.
Alors, Dell a racheté VMware, enfin, a reprivatisé VMware et Pivotal. Ouais. Donc, oui. Après, la branche d'investissement ne veut pas forcément dire...
Oui.
Voilà, on va passer au middleware. Un petit article intéressant sur comment utiliser Elasticsearch en prod. Je l'ai trouvé pas mal. Alors, il explique les concepts de base. Alors, les clusters, les nœuds, les indices, ce qu'on appelle les shards, donc les morceaux de données. La notion de quorum. Qu'est-ce qui se passe quand on a un nœud qui tombe, qui était en train de coordonner les autres? Comment est-ce que ça se répare? Comment des nœuds rejoignent le cluster? Parce que c'est des concepts c'est des problèmes en prod, et du coup faut bien comprendre ces concepts là pour essayer de minimiser ces problèmes en production, notamment la notion de segments qui sont des morceaux d'index, et puis comment ces segments sont mergés. Alors je vais pas aller dans le détail, mais Lucene, c'est des segments qui sont immuables, et du coup quand on écrit quand on modifie ou rajoute des éléments dans l'index, on crée un nouveau segment, et puis ces segments ils sont agrégés virtuellement Et de temps en temps, on peut faire des merges physiques pour les réagréger, un peu comme des frags, pour ceux qui sont assez vieux pour savoir ce que c'est. Voilà, il y a pas mal de presse intéressantes là-dessus, mais en tout cas, ça a un impact. Donc, notamment, il explique la gestion de mémoire, comment on fait. Alors attention, il a fait une petite erreur sur les pointeurs compressés versus les pointeurs non compressés, mais ce qu'il dit, c'est que quand on donne à la JVM plus que 30, en gros 32 gigas de RAM. Quand on consomme plus que 32 gigas de RAM, eh bien on est obligé d'utiliser des pointeurs sur 64 bits. Et du coup, c'est assez gros, c'est-à-dire que chaque objet a un pointeur qui fait 64 bits. Quand on a moins de 32 gigas de heap, eh bien on peut utiliser ce qu'on appelle des pointeurs compressés, c'est-à-dire qu'on enlève je crois que techniquement ils ont besoin de 34 bits. Si on en enlève certains parce qu'on sait qu'on va pas dépasser en termes de consommation mémoire, on peut ne mettre nos pointeurs que sur 32 bits. Et du coup, bah, on gagne beaucoup.
Punaise, parce que c'est technique là.
Ouais, mais je l'explique pas super bien, mais je vous laisserai. D'ailleurs, j'ai fait un lien vers Stack Overflow qui répond très bien à ce que c'est qu'un pointeur compressé et pas compressé. C'est juste que au lieu de consommer en fait deux mots en mémoire, on va en consommer qu'un seul parce qu'on sait qu'on va pas consommer plus que tant de mémoire, ce qui fait que bah, la consommation mémoire globale va diminuer parce que quand on regarde les données brutes, ça consomme de la mémoire, mais tous les pointeurs, les structures qui, voilà, votre liste, votre map, qui a des clés et des valeurs, etc. Tout ça, c'est des structures qui consomment de la mémoire par-dessus vos données effectives, que ça soit la liste des utilisateurs ou des choses comme ça. Et du coup, les pointeurs et la liste d'objets, c'est aussi quelque chose qui consomme de la mémoire. Et donc, quand on peut compresser ces fameux pointeurs, diviser leur consommation mémoire par deux, en gros, ben, c'est cool. Et donc, si on fait des clusters qui passent de 30 à, enfin, passent au-dessus de 30 gigas de consommation mémoire, eh bien, on passe en pointeurs non compressés, ce qui fait qu'on a un peu une explosion de consommation au niveau de la mémoire. Voilà. Il recommande aussi, mais ça c'est assez général au niveau de la JVM, c'est que quand on veut un heap de 30 gigas, eh bien il faut une machine avec 60 gigas, c'est-à-dire qu'on donne à la JVM deux fois plus de mémoire que ce qu'on va mettre en heap, quand on n'utilise pas Quarkus.
Non, pas, je mal, regarde, mais, pas mal.
Ouais, t'as vu ce passage.
Hop.
Voilà. Comment, en fonction de la charge qu'on veut faire sur le cluster Elasticsearch, est-ce qu'on veut faire beaucoup d'écriture ou est-ce qu'on fait plutôt de la lecture forte? Eh bien, les optimisations, le nombre de nœuds, le nombre de réplicas, tout ça va être différent. En fait, c'est littéralement opposé l'un à l'autre. Voilà, comment on gère la topologie, comment on gère le monitoring. Donc, c'est un petit article intéressant sur ben, comment on gère proprement un cluster Elasticsearch en prod. Ça vaut le coup, si vous en utilisez un, d'aller regarder s'il y a des choses que vous pouvez aller utiliser. Voilà, on va passer à l'infrastructure. Est-ce que vous connaissez Have I Been Pwned?
Oui.
Non.
Alors moi, je n'ai jamais utilisé, mais c'est un service. Tu mets ton, URL ou ton mot de passe. Ouais. Et il dit, bah ouais, on a trouvé. En fait, il y a eu des failles de... Pardon. Ouais, voilà, il y a eu des leaks de données qui contiennent votre adresse email. Donc, vous avez votre mot de passe ou vos données personnelles ont été leakées. Et donc, c'est très populaire. C'est littéralement un one-man project de un monsieur qui s'appelle Troy Hunt, à qui beaucoup de gens font confiance parce que tu lui files quand même des infos, tu lui files ton adresse email, voilà, ton hash de mot de passe, ce genre de choses, et lui il va te dire bah oui, tu es dans la base des mots de passe qui ont été copiés ou volés, etc. Et donc à un moment c'était trop pour lui, il a cherché à se faire racheter, donc on appelle ça merge and acquisition. Il cherchait à se faire racheter par une boîte qui continuerait ce projet là mais sans qu'il soit tout seul. En fait, il voulait pouvoir prendre un peu plus de temps et que ça consomme pas ses journées et ses nuits comme ça. Et donc c'est un peu comme quand tu dis DevOps. Donc lui, c'était devenu limite son métier, mais en gros c'était quand même beaucoup de bénévolat et de passion dans le truc. Et puis quand tu construis des trucs gros, t'es obligé de t'entourer de choses compliquées. Donc il était obligé de s'entourer de gens comme KPMG pour discuter le merge and acquisition, parce qu'il allait parler à des gros de la Silicon Valley ou d'ailleurs il a des références intéressantes sur comment ça s'appelle cette série. Silicon Valley, et il dit, mais c'est juste la série capture tellement l'esprit de certains meetings dans la Silicon Valley, que ça fait juste peur, en fait. du coup, il a fait, donc il a pas mal écrémé avec des listes de contraintes qu'il avait affichées au niveau du projet. Et ensuite, on se met à avoir un certain nombre de candidats restants. Et puis, on fait ce qu'on appelle les due diligence, où il y a des milliards de questions. Aux sécurités de backup, qu'est-ce qui se passe si Monsieur X meurt, voilà. Donc il a passé un temps énorme là-dessus, et puis il s'est mis, il explique en fait tout ce cheminement, les doutes qu'il a pu avoir, est-ce que je fais le bon choix de vendre en gros ce bébé sur lequel les gens m'avaient donné beaucoup de confiance, et puis il arrive à une boîte où il estime c'est vraiment la bonne, donc il se met dans une négociation dite exclusive. Et puis, il continue encore pendant des semaines et des mois. Et puis, à un moment, cette boîte-là change de stratégie business. Et du coup, ça ne matche plus. Et c'était un des risques qu'il avait évidemment identifié. Mais du coup, là, il était rentré dans un tunnel long et qui lui avait coûté tellement en énergie qu'au final, il dit, je ne vais pas faire cette acquisition. Je vais garder le projet. Je vais sûrement embaucher des gens pour ne pas être tout seul. Voilà. Pour les gens qui sont des petites boîtes, qui cherchent à se faire racheter, c'est un article intéressant de tout cet univers, de la complexité de gérer cette partie-là. C'est pas juste j'ai un projet avec succès et il y a des gens qui veulent me racheter et hop, en 10 minutes, on signe un truc, quelques millions et c'est la fête. Donc voilà, pour les gens qui sont intéressés là-dessus, c'est intéressant. On va parler du cloud. Est-ce que vous utilisez des ressources cloud, notamment des clusters, que ça soit Kubernetes ou autre, que ça soit Amazon, Google ou des choses comme ça?
Moi, ce que je vois chez mes clients, c'est plutôt in-house, tu vois. Ils utilisent Docker, Kubernetes, mais ils déploient chez eux, quoi. Très peu d'hybride cloud, une partie en interne, une partie en externe. Enfin bon, là, c'est ce que je vois après.
D'accord. Mmh. Et toi, Vincent, je sais que vous avez mywiki.org et vous hébergez des clients, mais c'est vous construisez vos... Ouais, c'est chez vous. D'accord. Donc après, il y a des gens, effectivement, qui font... donc là, tu les vois pas chez tes clients, mais il y a quand même des gens qui, donc, soit hébergent tout dans le cloud, soit commencent à avoir ces nouvelles stratégies. Et notamment, dans le cas de Kubernetes, on a tendance à dire, on a le cluster de prod, un ou plusieurs d'ailleurs, on a les clusters staging, le cluster pré-prod, et puis on a limite un cluster par dev, parce que comme ça, on est isolé et puis on n'est pas bloqué par les autres à attendre les ressources, et donc c'est cool. Et puis on a un coût qui est défini, et donc ça va bien. Et là, Google a décidé de rajouter un petit coût mineur, mais qui est de 10 centimes par heure de management du cluster, en fait. Donc pour chaque cluster démarré, pendant une heure, vous payez 10 centimes. Bon. En plus de la ressource hardware que vous utilisez et ou la bande passante, hein, ce genre de choses. Et en fait, on l'avait déjà vu d'ailleurs pour Google App Engine, où à un moment ils avaient changé les points économiques de certaines API, et ça avait fait un peu des révolutions et des gens qui ont râlé, voire même des gens dont le business model avait complètement dû être réinventé, parce que ils ont dû optimiser non pas leur code pour qu'il soit plus rapide, mais pour qu'il coûte moins cher. Et donc là, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que si on se dit, les clusters, ça me coûte pas cher parce que je le démarre, et puis si je l'utilise pas, en fait, j'utilise très peu. Là, on se met à dire, si, ça me coûte 10 centimes de l'heure. Donc si vous multipliez ça par le nombre d'heures sur 24 heures ou sur 12 heures fois le nombre de développeurs, et ça commence à peut avoir un coût, soit qui est négligeable parce que votre boîte est assez grosse et que c'est peanuts, ou soit pas du tout. Voilà. Du coup, il y a eu ce changement-là qui est en train de faire râler. Je ne sais pas ce que Google va faire, j'ai pas trop suivi ces derniers jours, mais c'est intéressant de voir comment ces évolutions de prix sont quand même hyper sensibles sur les gens, alors que quelqu'un disait la promesse du cloud, c'est quand même de dire ça va coûter de moins en moins cher au fur et à mesure du temps, parce qu'on est en train de gagner en économie d'échelle, et puis vous allez nous rajouter des nouveaux services qu'on va utiliser et tout le monde est gagnant. Là, c'est un peu ça casse cette promesse intuitive, plutôt implicite.
Que j'ai vu, moi, c'était une boîte pas très très grande, qui avait pas mal de trucs sur le cloud. Et à la suite, enfin, il y a plein de développeurs qui arrivent, qui ramènent la nouvelle techno, la nouvelle base de données, NoSQL, le nouvel Elasticsearch, le nouveau machin. Et eux, en fait, ce qu'ils étaient, lorsque je suis y arrivé, ils faisaient marche arrière pour avoir juste moins de ressources sur le cloud. Je dis n'importe quoi, mais imaginez, ils ont une base de données Postgres, puis un MySQL, plus. Et donc, ils en étaient à se dire, en fait, ça coûte super cher, on va tout mettre sur Postgres. Ils essayaient aussi de virer un peu d'Elasticsearch, etc. Enfin, vraiment, en se disant, le cloud, on peut tout y faire, ressources illimitées. Mais au bout de quelques années, ils étaient arrivés à une facture qui coûtait un peu cher. Donc, ils rationalisaient en disant, a-t-on besoin de 4 bases de données différentes ?
Ouais, parce qu'en fait, donc, quand tu as des bases de données différentes, tu complexifies quand même ton management, même si c'est idéalement le plus managé par ton cloud provider. Et l'autre truc, c'est que en fait, on dit... ce qui coûte cher, c'est pas tant les ressources, c'est le trouver le bon développeur, et puis on va utiliser comme effet levier l'informatique pour amener de la valeur à la boîte. Mais il y a peut-être des boîtes, en tout cas, qui n'ont pas réussi à trouver la clé pour que ce levier de l'informatique soit assez significatif. Et du coup, on en revient à une équation économique beaucoup plus simple, c'est que les ressources, elles coûtent. Et du coup, t'es obligé de rationaliser ou limiter les clusters. Et donc, t'es plus dans ce mode Eldorado du genre, si je trouve la pépite, c'est la fête. T'es dans le mode plutôt long terme. Et tout a déjà été... tu cherches pas à trouver la pépite, tu cherches à construire de manière incrémentale ton business.
Et c'est comme le polyglotte. Quand tu vas à des confs microservices, on te dit utilisez le langage que vous voulez, mais sur des petites boîtes, c'est hyper coûteux de dire on a 12 microservices, on a 4 bases de données différentes, 7 langages. Entre le turnover, etc., etc., ça fait que tu te retrouves avec des toutes petites équipes qui jonglent entre 7 langages, 5 bases de données. C'est coûteux. Enfin, ça, pareil, c'est assez coûteux en termes de ressources humaines pour le coup.
Ouais, c'est le risque de la perte de la connaissance, c'est le buzz factor, en fait, puisque tu as plein de technologies et du coup, la chance que si une personne s'en aille, tu sois vraiment dans la mouise, il augmente. Outillage, je savais pas, moi, mais IntelliJ fait un Big Data Tools. Donc là, ils ont sorti
une nouvelle version. Non plus.
Voilà. Donc c'est un IDE, mais pour faire du Big Data, donc qui s'intègre avec Zeppelin S3.
D'accord.
Je crois que c'est un IDE. C'est comme Storm versus IDEA, tu vois. Je crois. Alors, peut-être que je me trompe.
Update en tout cas, Big Data Tools plugin.
Ah, c'est un plugin, du coup. Alors, autant pour moi. En tout cas, ce qu'ils ont rajouté, l'intégration Spark était vraiment tech preview. Donc là, maintenant, c'est beaucoup plus avancé. Ils ont rajouté HDFS à S3 en termes de support. Pareil pour le support de Parquet. C'est Parquet ou Parquet? Je suis peut-être trompé dans mon... note. Voilà, donc pour les gens qui sont dans le big data, si vous ne saviez pas, peut-être que vous allez me prendre pour un débile qui ne savait pas, mais en tout cas, voilà, pour ceux qui ne savaient pas, on y est. Ah oui, et puis on a oublié, il est où, j'ai pas raté...
Bottle Rocket. Amazon annonce Bottle Rocket.
Ouais, alors c'est quoi ça?
C'est le concurrent de Red Hat Enterprise Linux, non? C'est pas ça?
Ben, un peu, hein.
Presque, mais je pense que
tu veux le prendre.
Si j'en parle.
Ouais, vas-y.
C'est plus orienté. L'idée, c'est de fournir un OS minimal pour faire tourner des images de containers, donc orienté Docker ou autre, et avec comme idée de, une idée de taille, hein, donc de performance et de sécurité, puisque si tu as moins de services installé que ce qui est nécessaire, tu as une exposition moindre aux failles de sécurité des différents services que tu n'utiliserais pas. Et puis l'autre idée, c'est sur les upgrades, quand tu as ton container qui tourne et que tu veux l'upgrader, tu passes par les package manager, donc prod, et donc ça peut t'amener des problèmes parce que tu peux avoir des upgrades qui causent des erreurs par-ci par-là. Et donc, leur idée, c'était de gérer ça au niveau de l'image elle-même. C'est-à-dire, dès qu'il y a des upgrades, il y a des nouvelles images. Et donc, ça, qui veut dire, d'après ce que j'ai compris, ton service, bah, il faut que tu l'arrêtes. T'arrêtes ton container, t'en crées un. Donc, avec la nouvelle image qui contient les upgrades, et tu redémarres. Donc, ça sous-entend que tu as un mécanisme d'orchestration à la Kubernetes et autres qui te permet de recréer facilement, de redémarrer et de gérer tout ça, puisque tu vas en arrêter, redémarrer des containers et des services. Donc, je sais pas trop exactement ce que ça veut dire. Moi, j'ai pas tellement d'expérience personnelle sur la prod là-dessus. Parce que nous, quand on utilise pas mal de containers, mais c'est plus sur du dev, donc on les arrête, on les redémarre, il n'y a pas ce problème de long terme. Mais j'imagine que c'est un souci, ces upgrades doivent être un souci. Je ne sais pas. En revanche, je vois bien l'intérêt sur les images minimum en taille, parce que quand tu commences à en avoir beaucoup, ça fait gros déjà, et puis problème de sécurité. Voilà, ça ressemble pour moi, de loin, ça ressemble un peu à ce qu'on avait dans les images Docker, Alpine et compagnie, qui étaient vraiment les plus petites. Mais là, je pense que c'est autant le Alpine n'était pas forcément fait pour faire de la prod, je sais pas trop. En tout cas, j'avais pas ce sentiment-là. Là, je pense que c'est vraiment fait pour faire de la prod.
Donc, à voir comment ça évolue. Effectivement, si t'as pas d'orchestrateur, si t'as pas d'automatisation et donc de gestion de ce truc-là, l'infrastructure immuable, c'est compliqué parce que si tu le fais à la main, tu peux faire un rollback facilement, mais si tu dois te taper les rollbacks à la main, ça devient ingérable. Donc voilà, ça demande quand même une approche à la Kubernetes où tu traites les fameux pods comme du bétail, c'est-à-dire, tu sais qui vont tomber, qui vont être redémarrés ailleurs.
T'as automatisé ton process de démarrage et d'arrêt.
Absolument.
Sachant que c'est plus facile si t'es stateless, et si t'as des états, il faut que tu les. Tu sois assuré que tu sauvegardes tes datas aussi, qui repartent dans les bons états. Ouais. Mais ça, je ne connais pas trop.
Voilà, on va parler architecture. Là, il y a un article, alors je sais pas si je suis 100% d'accord avec, d'ailleurs il est pas si tech que ça, il est plutôt de manière générale, mais il dit voilà, les systèmes simples ont moins de downtime. Et donc il encourage à garder les systèmes simples en sacrifiant du coup des fonctionnalités et des choses comme ça. Pourquoi? Et il dit un système simple, c'est facile à comprendre et du coup c'est facile à corriger. Parce que il y a trois morceaux, donc quand le morceau 2 il est cassé, on le répare et puis voilà. Si on a 150 morceaux, pour trouver le morceau qui est en train de foutre la zouille, c'est plus long. Pour monter en compétence, faut monter en compétence sur 150 morceaux et pas sur 3. Et puis ce qu'il dit, c'est que du coup, si les solutions sont simples, qu'on a un système qui fait ça, un truc qui fait ça, et qui sont assez génériques, donc pas extrêmement évolués et pas nécessairement extrêmement customisés, on va pouvoir les remplacer par d'autres choses. Donc lui parlait, remplacer Salesforce par autre chose, Salesforce et vous pose problème. Du coup, il est vraiment pour garder non seulement la tech, mais aussi les process, en fait, extrêmement simples. Donc peut-être ça marche pour les startups, je sais que pour les grosses boîtes, assez vite. Alors, je sais bien, on tape sur le dos des grosses boîtes qui ont une complexité inhérente. On se demande comment elles survivent, etc. Mais à un moment, ça vient avec la taille et la complexité des process d'avoir ces spécialisations-là. Donc, je sais pas si ce qu'il explique est entièrement reproductible partout, mais en tout cas, c'est intéressant pour essayer de se challenger.
En lisant l'article, je retrouvais les principes de l'agile, en fait, du Yagni, de dire que faut utiliser que ce pourquoi tu as des use cases au présent et pas parier sur le futur où tu sais pas si ça va arriver ou pas, et donc tu aurais le coût de la complexité même si ça n'arrive pas, même si tu vas pas utiliser ces nouvelles fonctionnalités, par exemple. Ouais. La difficulté, ce truc-là, j'ai toujours eu du mal avec ce concept personnellement. Parce que c'est très difficile à savoir, parce que si tu en as besoin, en revanche, ça peut t'obliger à complètement changer d'outil et donc de remettre tout à la poubelle. Donc c'est plus une probabilité de est-ce que ça peut arriver ou pas que oui ou non ça va arriver. Et donc c'est extrêmement difficile parce que c'est une estimation, tu sais jamais si ça va arriver. Donc si ça va arriver, autant que tu aies déjà mis en place quelque chose qui va supporter tes nouveaux use cases, ça te coûtera moins cher globalement. Donc c'est très difficile. Parce que de dire, sinon, c'est, on enfonce des portes ouvertes. On dit oui, vaut mieux prendre un truc facile, un truc simple, un truc compliqué. Oui, ok. C'est sûr. Ça me paraît assez évident.
Sauf que si le métier dit, bah ouais, moi, ça me prend tout ça. Qu'est-ce que je peux faire? Et là, tu dis, bah non, t'as pas le droit à ta fonctionnalité parce que sinon, ça va être trop compliqué.
C'est beaucoup plus compliqué que tout ça parce que, on voit d'ailleurs quand on choisit, même quand on choisit un projet open source ou un autre, hein, tu peux choisir des trucs qui font plus de choses que d'autres. Et il y a plein d'autres critères qui arrivent. C'est la pérennité de l'outil que tu choisis ou du service que tu utilises dans la durée, le coût, la politique, comment ça va évoluer, etc. Donc, c'est pas juste les problèmes de complexité.
Voilà, on va sauter deux articles, mais je vais juste vous les mentionner, vous pourrez les voir dans les show notes. 11 raisons pour lesquelles vous allez rater vos microservices. Alors, c'est pas la première fois qu'on a ce genre d'article. Là, c'est un article de Zebia Engineering Blog. Voilà, le management sous-estime la complexité des microservices. Pas de process pour partager du code entre ces microservices ou pour toujours être à la dernière version des frameworks pour éviter les problèmes de sécurité, etc. Donc, si on abandonne un microservice et qu'on le laisse dépérir, ben, ça pose problème. Et puis, comme il y en a plein, ben, ça arrive plus vite. Ce que tu parlais, Antonio, c'est-à-dire ben, limitez-vous en termes de polyglotte parce que c'est bien, ça va bien 5 minutes. Mais après, quand le gars il s'en va et qu'il vous a sorti son langage de programmation maison, ben, vous ne savez pas comment gérer.
Ou Dart.
Voilà, il y a 11 raisons, donc je vous laisse le relire si vous
avez. Ça rejoint exactement le premier article là sur la complexité, parce que tu peux te dire que pour faire un système simple, voilà, tu démarres avec un petit microservice simple, ouais. Et dès que tu veux de la complexité, dès que tu as besoin de use case, bah, tu rajoutes des microservices qui font des choses en plus. Sauf que tu as effectivement le problème d'avoir à gérer toute la relation entre les microservices et tous les problèmes qui sont listés dans cet article. Au final. Donc, tu commences un truc simple et en fait, tu finis avec un truc qui est potentiellement encore plus compliqué que si tu avais un truc un peu plus monolithique qui gérait plus de choses. Donc, c'est un des risques, ouais. Effectivement.
Ouais. Et puis, un autre article, alors, c'est pas pour la réponse à la question qu'il donne, c'est un retour d'expérience sur quelqu'un qui dit j'ai plein d'IP, c'est les gens de Cloudflare, ils ont plein d'IP, elles viennent de certains, une IP se connecte à leur data center, et ils ont plein de data center, et du coup, comme ils font de l'affinité géographique, ben, si une IP se connecte à un data center et un seul, ben, c'est logique, si elle se connecte à plein d'autres data centers, peut-être qu'il y a du spoofing de cette IP. Et du coup, on utilise des boom filters pour faire ça, parce que si on garde en mémoire la liste de toutes les IP par data center, bah, c'est une grosse structure mémoire. Et les boom filters, ça permet d'avoir une réponse probabiliste à ça, mais en consommant beaucoup moins de mémoire. Et puis, il déroule le truc, il dit, bon, bah super, je prends telle librairie pour faire mon boom filter, il l'exécute, et puis il se dit, putain, mince, c'est quand même pas super rapide. Alors, il creuse, il fait un profiler, il trouve pas de truc, il dit, tiens, il y a ce morceau-là qui est hyper long, et puis là, ah, mais oui, charger les choses en mémoire, quand on se met à aller au-delà du cache de niveau 3, c'est hyper coûteux. Et puis, du coup, il repart sur son problème de base, il resimplifie la chose, et puis, sur cette idée-là que ben, consommer du CPU, c'est beaucoup plus avantageux que consommer de moins de mémoire dans son cas à lui. Voilà, il retravaille un peu le process pour que tout puisse rester dans le cache de niveau 3 et du coup être très efficace. Ce que j'ai bien aimé, c'est son cheminement intellectuel voilà, sur là-dessus. Donc, je vous encourage à aller lire ça. On va passer en méthodologie. Alors, c'est un peu outil méthodologie, mais il y a GitLab qui a sorti une fonctionnalité qui s'appelle les Merge Trains. Et eux, ils disent, ben voilà, quand vous avez une équipe qui a beaucoup de vélocité, ce que vous avez assez vite, c'est une guerre des merges. Si je merge avant toi, c'est pas moi qui vais me taper le rebase. Alors, pour les gens qui ont connu SVN, c'était toujours ça. Plus tu commit vite, moins t'as le conflit du mec qui commit juste avant toi et qui a tout pété sur les mêmes endroits. Et donc, ils disent qu'au final, c'est un peu la guerre et puis on est obligé de faire des rebases et puis finalement, on sérialise toutes les pull requests. Et donc, ce qu'ils font, eux, et ils l'ont automatisé dans leur outil, c'est la notion de batch de merge. Donc, ils disent, voilà, Moi, j'ai une merge request, donc c'est l'équivalent d'une pull request au sens GitHub. On la valide. Elle est en train d'être testée par la CI qui prend un certain nombre de temps. Et puis, il y en a une autre qui arrive. Eh ben, on va lancer un job qui va pas la tester indépendamment, les deux qui s'appuient sur le même point de master, mais elle va s'appuyer sur la première merge request. On va rajouter la deuxième et on va tester l'ensemble des deux. Et puis, une troisième arrive, donc on va tester 1, 2, 3 ensemble. Et puis, on laisse les jobs tourner. Et puis, si tout va bien, ben la merge request 1, le job passe. Et donc, ça, c'est commité dans master. Et puis, le merge 1 plus 2, les tests passent. Donc, le merge MR2 est commité dans master. Et 1 plus 2 plus 3, ben ça passe pas parce qu'il y a un problème sur MR3. Mais il se trouve qu'entre-temps, quelqu'un avait mis une pull request 4. Et ben la pull request 4, qui était construite au-dessus de la pull request 3, eh bien, l'outil automatiquement va reconstruire pull request 1, 2 et 4 et relancer les tests là-dessus en éliminant 3, en fait. Donc, il batch les merges pour les faire, ne pas attendre la fin d'une, en gros, du job de CI à la fin d'une pull request pour en démarrer une deuxième. Donc, ça permet de faire c'est de l'industriel, quoi. On envoie du batch en entier, puis on automatise les rollbacks. Donc, c'est intéressant si vous êtes dans une équipe assez dynamique avec beaucoup de pull requests qui arrivent et qui sont potentiellement contentieuses. C'est tout intéressant.
Ça me... En revanche, ça intéresse que ton job soit rapide, parce que ça en fait quand même beaucoup.
Ben non, justement. C'est ça, l'idée, c'est que ton job, il a pas à être rapide parce que tu démarres le job suivant sans attendre la fin du job d'avant.
Non, parce qu'il faut justement, ce que tu disais, c'est qu'il faut que tu aies d'abord ta première pull request, il faut que ce soit d'abord que ce qu'elle ait passé avant que tu aies ton deuxième.
Non, tu ne sais pas si elle a passé et tu démarres la pull request 1 plus 2, tu démarres le test avant que le résultat de la pull request 1.
Ah oui, donc tu inclus les modifications de la première, ouais. Mais avant le résultat, hein, c'est ça.
C'est ça. Tu fais de l'optimistic locking en gros.
Ouais, mais bon, ça, je suis d'accord.
Nous, sur Quarkus, on a.
Oui, ça veut dire que ça coûte quand même, par exemple, par rapport à nous, ce qu'on fait sur XQT, nous, on est que sur du trunk, hein, peu importe. Quand tu as plusieurs pull requests qui arrivent ou plusieurs plutôt commits qui arrivent, le prochain build va agréger plusieurs commits d'un coup. Il va pas, on les fait pas les uns après les autres, quand même. Parce que sinon, ça coûte trop cher en agent, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Ouais, voilà, c'est un petit peu ce qu'ils ont fait. En gros, sauf qu'ils ont automatisé le fait de, je crois que c'est, les gens de OpenStack qui avaient fait la même chose. En gros, ils ont automatisé le fait de, on en met plein d'un coup, et puis si ça pète, on se met à regarder celui qui a pété, avec un peu de chance, en gros, on a fait un CI pour plusieurs pull requests.
La question que je me pose, c'est est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est plus efficace que faire du trunk base, du coup, ou pas?
Moi, ce que je pense, c'est que si la volumétrie si la contention de l'équipe, elle est pas si élevée que ça, c'est pas la peine de se lancer dans ce truc-là. Surtout si t'es pas sur GitLab, parce que du coup, faut que tu construises l'outillage de merge de train. Quoi. Voilà. Et puis dans la même veine, il y a un petit article sur le modèle GitFlow qui, à un moment, était recommandé par certains. Et donc lui, justement, il prend le contre-pied de ça en disant GitFlow, pour des gens, c'est OK pour des gens qui font plusieurs releases en parallèle, la 1.3 et la 1.4 et la 1.5 et qui la maintiennent et qui veulent garder un peu de consistance autour de ça, qui font du quarterly release et pas du continuous delivery. Et du coup, il explique que quelqu'un qui déploie un site web ou une appli web en continuous delivery, le GitFlow, en fait, ça crée une complexité institutionnelle trop forte par rapport aux bénéfices. Donc si vous avez embrassé GitFlow parce que c'était le truc qu'il fallait faire et vous avez des doutes, c'est peut-être un article à aller lire. Et puis je pense ça je sais pas si tu l'as lu Vincent, mais je pense c'est un truc qui va t'intéresser. C'est quelqu'un qui alors je crois qu'il vend un outil de mesure de complexité de code, mais c'était intéressant la démarche, c'est que historiquement, on mesure la complexité de code en mesurant la complexité cyclomatique, c'est-à-dire plus il y a de if, plus il y a de boucles, etc., plus le code est considéré comme compliqué. Et en fait, il montre que il y a des codes qui sont cyclomatiquement plus compliqués, mais en fait, qui se lisent mieux.
Oui.
Et du coup, que c'est pas une super logique. Et du coup, lui, dans son travail, il dit, en fait, ce qui se passe, c'est que le cerveau, la complexité, c'est quand il est obligé de garder un certain nombre d'informations en mémoire pour comprendre le système. Et donc, on a, je crois, c'est 7 à peu près le max qu'on peut garder en mémoire courte dans le cerveau. Et donc, si on se met à avoir des if, dans telles conditions, je fais ça, en fait, c'est des, donc, du coup, des, des ifs impliqués, imbriqués, des boucles imbriquées. Donc, en fait, quand on se met à indenter notre code avec des conditions, s'il y a ça et ceci et cela, c'est là où on est obligé de garder un modèle mental assez complexe en mémoire. Et quand on dépasse 7, eh ben, on explose, quoi. L'humain explose. Et du coup, il dit, donc ça c'est vrai, et puis c'est vrai des méthodes qui ont plusieurs de ces imbrications, en fait, des plusieurs dodanes, parce qu'on voit le code qui s'indente et qui ressort. Et ben ça, c'est des méthodes qui recommandent de séparer ou de simplifier, et du coup, il a construit une méthode de calcul de la complexité de code proche de ça, et puis il dit que ça marche super bien. Après, ça c'est plus un peu la vente du produit, mais je trouvais ça intéressant.
Non, c'est vrai, c'est vrai que ça marche bien. C'est vrai que je suis assez d'accord. On a déjà regardé un petit peu. Et ce qui est sympa, c'est que SonarQube l'implémente depuis un certain temps déjà. Et donc tu peux l'avoir sur ton code, ça. Tu peux le résultat directement si tu es sur SonarCloud ou ailleurs. Et donc c'est très cool. Ouais. Et tu vois bien visuellement la complexité, comment elle est calculée. Parce qu'ils font ça très très bien. Ils te montrent visuellement comment. Les points, enfin, où est-ce que tu perds des points dans chaque branche, les trucs, etc. Donc, c'est très facile à, je trouve, c'est très facile à corriger ton code, à l'améliorer.
Donc, essayez avec SonarQube, c'est le conseil du jour qu'on pourrait donner.
C'est ça.
On va passer à la sécurité, ou plutôt le manque d'eux. Alors, si vous utilisez Tomcat de 6 à 9, il y a une faille qui s'appelle Ghostcat, en un seul mot. C'est en gros une faille dans le protocole Apache JServe qui est en fait utilisée pour que un proxy parle à Tomcat ou les Tomcat parlent à Tomcat, je connais pas trop le détail, mais en tout cas c'est les communications sur ce protocole là qui est pas le protocole qui est sur le port 80, c'est sur un autre port. Il est implicitement plus le code de Tomcat lui fait plus confiance que par exemple à une requête HTTP 80, ce qui fait que on va pouvoir lire tout ce qu'il y a dans le point WAR, en gros, et puis s'il se trouve que votre application est capable d'uploader des fichiers, vous allez pouvoir du coup uploader du code malicieux et faire une exécution, un remote exploit, en gros, du système sur lequel le Tomcat tourne, donc ça, c'est pas cool. Donc, je pense pas que ça affecte nécessairement tout le monde. Ça dépend si vous avez bien caché le port JServe ou pas. Si vous utilisez Tomcat 6, eh bien, vous êtes dans la mouise, puisque en fait, ils ont pas fait de backport. Tomcat 6 est plus supporté, donc va falloir vous mettre à jour. Si vous utilisez Tomcat 7, 8 ou 9, eh bien, il y a des nouvelles versions qui correspondent à cette à la version patchée de chacune de ces versions-là. Et attention, c'est pas parce que vous dites, non, moi, j'utilise pas Tomcat, ça va. Attention, si vous utilisez Spring Boot, par défaut, c'est Tomcat, selon les web starters que vous utilisez. Wildfly, pareil. Donc, et un certain nombre, enfin, beaucoup d'autres systèmes, en fait, embarquent Tomcat. Donc, faites attention, mettez à jour vos stacks. Et on en revient au point sur les microservices. Si vous n'avez pas de process pour en gros, payer votre dette de sécurité et de constamment mettre à jour vos stacks, c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà. Sinon, Let's Encrypt a révoqué 3 millions de certificats parce que, en fait, ils avaient un bug dans leur processus de validation. Mais quand il y avait un certificat qui avait plusieurs domaines, en fait, il validait que le premier et il vérifiait pas que vous étiez propriétaire des autres domaines. Donc bon, c'est une petite erreur. Ce qui est important, c'est qu'il corrige et qu'il l'annonce. Voilà. Donc ça fait beaucoup, 3 millions de certes, mais en fait, ils ont fourni le premier milliard de certificats là pas beaucoup d'années au final. Donc grosse machine. On me dit dans l'oreillette que Serverless, c'est quoi le nom ? Serverless Paris, c'est quoi le nom ?
Serverless Day Paris est annulé. Désolé, là voilà. J'étais un peu en off parce que le gouvernement vient d'annoncer que les rassemblements de plus de 100 personnes sont interdites. Donc, vous savez, nous, DevOps, à chaque fois qu'il y a un truc, ça part en cacahuète. Bon, bref. Donc voilà, ça vient de tomber. Et puis effectivement, là, il y a Serverless Day qui avait lieu à Paris en début juillet, qui vient d'annoncer qu'ils annulaient.
Ouais, 100 personnes, ça va, il y a encore de la marge. Chez nous, dans l'Oise, on est à 2 personnes, c'est annulé déjà. Depuis
tu peux jouer au tennis alors, c'est bon.
Tu vois, j'ai des cours de yoga, deux personnes sont annulées. Donc c'est super. Donc si, oui, on a encore de la marche. Donc ça descend 5000, 1000.
100 et bientôt 100. 2. Et on se mettra tout voilà. Au tennis.
Et 1. Les réunions de une personne ouais. Sont interdites. On va passer à loi, société et organisation. Vous vous rappelez, il y a eu un procès entre Google et Oracle parce que Oracle a accusé Google d'avoir copié les API Java qui étaient, d'après Oracle, du code qui était copyrighté Oracle, et donc ils ont volé le code. Et du coup, ils voulaient de l'argent en compensation. Tout ça, ça venait de Android qui s'appuyait sur Java, etc. Les API, on a une histoire en fait dans l'informatique qui est de pouvoir les réimplémenter avec d'autres choses, et ce qui a permis de notre industrie est faite de gens qui réimplémentent des API pour être compatibles et en fait d'avoir un côté économique viable. C'est de la compétition quoi. Compétition juste et honnête quoi. Et en fait Oracle a gagné je crois jusqu'à la Cour suprême je crois de mémoire, et du coup ce que ça dit c'est que les API ne sont copyrightables, c'est-à-dire que je te fournis une API mais je t'interdis de l'implémenter, c'est-à-dire que on n'aurait pas eu d'ordinateur non IBM PC, puisque les BIOS qui ont été rétro-ingénérés et puis réimplémentés pour ce qui a inventé l'univers du PC n'aurait pas pu exister. Et puis il y a des dizaines d'exemples comme ça. Du coup, il y a eu un amicus brief qui est en fait un conseil d'avocats dans ce cas-là de IBM et de Red Hat qui explique à la Cour suprême pourquoi le choix qui a été fait il est pas bon. Et qu'il faudrait revenir en arrière parce que voilà les impacts, et puis vous avez été trop loin sans mettre de restrictions, etc., etc., etc. Sachant que la Cour suprême, ils doivent revoir ce sujet-là au printemps. Il n'y a pas de date spécifique, mais revoir ce sujet-là au printemps. Et puis il y a des chercheurs en informatique qui ont aussi fait un amicus brief sur le même sujet. Et il se trouve que ces chercheurs-là, Oracle dit, voilà, ces chercheurs, messieurs de la cour, ne les écoutez pas, de toute façon, ils sont payés par Google. Alors, parce que ces gens-là ont eu des grants offerts par Google, ou sont, en ce moment, ou dans le passé, ont été des employés Google. Et du coup, il y a Joshua Bloch qui est pas content du tout, qui en gros dit... c'est pas parce que tu es payé ou tu as été payé par Google que du coup toute ta carrière de chercheur est biaisée là-dessus, et du coup il était pas mal remonté contre Oracle. Donc on essaiera de suivre les news et voir comment évolue le copyright d'API aux États-Unis, parce que évidemment c'est un petit peu un impact sur le reste du monde. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'épisode, on est bien là, non? Qu'est-ce que vous en pensez?
On est bien, on est à 1h15.
Ouais, j'en ai un dernier quand même, parce que ça m'a fait marrer. C'est une rubrique débutant. Est-ce que vous savez le yak shaving? Est-ce que vous savez le définir?
Oh, c'est le truc qui sert à rien et que tu répètes, non?
C'est pas le pignolage? C'est pas ça?
Eh ben, alors de ma définition, c'est genre, t'as un problème et du coup, tu crées un outil pour résoudre ce problème, tu vois. Genre,
un peu plus, moi, d'accord.
Ouais. Ouais. Et donc, il y a un article sur Donald Knuth, je vais y arriver, qui est le monsieur qui écrit l'anthologie de la programmation. D'ailleurs, je me rappelle plus le nom du bouquin. Donald. Je vais chercher ça rapidement parce que je me trouve un peu con là. The Art of Computer Programming. Donc c'est un Donald Knuth. Il écrit The Art of Computer Programming. Il y a plusieurs tomes. Il en est à je sais plus quel tome. Il en est à 2,5 ou 3,5 de mémoire. Et ça lui a pris toute sa carrière, donc 40 ans ou plus. Et lui c'est le maître absolu incontesté du yak shaving. Pourquoi? Parce que en gros ce gars-là il a écrit la V1 de son livre. Puis après il s'est dit il faut que je fasse une nouvelle version du livre. Donc, pour écrire ce livre, il faut que j'écrive un programme pour écrire le livre. Donc, il a inventé Tech. Et puis après, bah, il s'est dit, ouais, mais alors tech, je vais l'écrire en quoi? Bah, il a inventé un langage de programmation pour écrire tech. Ensuite, bah, en écrivant tech, il s'est aperçu que le flow des lignes et comment est-ce qu'on passe à la ligne dans les paragraphes, bah, c'était pas clair. Donc, il a inventé un mode de pagination. En gros, le fait de couper les objets au milieu de la ligne, enfin, c'est un truc assez spécifique à tech, on le voit. Donc, ça, il a inventé. Ensuite, et il s'est dit, bah, bon, là, c'est bien, mais il me faut que j'ai une police de caractère. Donc, il a fait un design de la police de caractère qu'il voulait. Mais comme bah, la police de caractère, on va pas l'écrire direct à la main, donc on va écrire un outil vectoriel pour construire la police de caractère. Ensuite, donc ça s'appelle Metafont et puis donc Tech, etc. Et donc il s'est dit, bah, il faut que je les versionne ces trucs-là parce que des fois je fais des nouvelles versions, je corrige des bugs. Et donc il a inventé un nouveau système de versionning. Donc le versionning de Tech, par exemple, c'est les décimales de pi. Donc la première version c'était 3. La deuxième version, c'était 1, etc., etc. Et j'ai trouvé ça assez bluffant que ce système de versionning, je ne comprends pas comment ça fait 20, enfin, ça fait trop d'années pour que je puisse le dire que je fais de la programmation et que je ne savais pas qu'il faisait ça, qu'il utilisait les décimales de pi pour.
Si ça, c'est pas geek.
Grave, grave. Et l'autre, c'est la valeur de E, donc c'est la constante de Euler.
Est-ce qu'il a inventé un ordinateur? Est-ce qu'il a inventé les transistors?
Je crois qu'il a inventé un ordinateur virtuel, ouais, pour expliquer The Art of Programming. Il a aussi inventé un langage d'app, enfin l'équivalent de PostScript. Parce qu'évidemment, une fois qu'il fallait imprimer, à l'époque, pour imprimer sur une imprimante, il fallait parler le langage de l'imprimante. Donc il a implémenté, parce que quelqu'un d'autre l'a défini, mais un langage d'abstraction. Au niveau de comment imprimer des documents. Donc voilà, je vous encourage à regarder la définition de Yak Shaving. Ça se trouve que c'était pas du tout la définition qu'on a donnée.
C'est le master du NIH aussi, hein, du Not Invented Here. Question.
Ouais. Ah, useless activity which by allowing you to overcome intermediate difficulty. Voilà, c'est ça. Donc pour résoudre un problème plus compliqué, on va faire des choses qui servent pas forcément à grand chose pour résoudre des problèmes intermédiaires. Donc en fait, on procrastine, mais pas en faisant rien, en faisant autre chose.
En gros, c'est ça. Le truc qui t'intéresse plus, quoi. Ouais.
Ça nous est jamais arrivé, ça. Hein. Bon, on est d'accord, on est des professionnels. On est des professionnels. Voilà. Bah, en parlant de professionnels, hein, maintenant qu'il n'y a plus d'économie, tout ça, va quand même falloir travailler virtuellement.
Et bosser maintenant parce que à partir de lundi vous avez vos mômes avec vous, hein. ça va être ouais. Super trash.
Et si vous n'en avez pas, il y a plein de gens qui aimeraient vous les prêter temporairement. Donc n'hésitez pas, je pense que vous
avez. De rien, ça va faire beaucoup parce que enfin, vous découvrez ça, mais dans l'Oise, nous, le cluster de l'Oise, ça fait longtemps. Moi, ça fait 5 semaines déjà que mes enfants ils sont pas à l'école.
Et le coût de la babysitter est passé à 35€ de l'heure, c'est ça?
Non, heureusement, la babysitter, c'est le papa à la maison qui fait du remote, travaille en remote depuis tout le temps. Et mes enfants sont assez grands pour ne pas avoir besoin de babysitter. Mais sinon, ouais, ça va être dur. Ouais.
D'ailleurs, t'as des retours sur les... Parce qu'il y a pas mal d'écoles, du coup, dans ces fameux clusters qui ont expérimenté avec la pédagogie en ligne, en fait.
Ouais, alors c'est le bordel pas possible. C'est-à-dire que chaque prof fait ce qu'il veut, en gros. Et donc, il y a des profs qui... Alors, il y a tous les différents types. Il y a des profs qui s'enregistrent eux-mêmes et qui envoient les vidéos pour leurs élèves de cours. Il y en a qui donnent des exercices voilà, sur le livre à faire, tel truc, etc. Et il y a l'école qui essaye d'envoyer des liens vers le CNED si tu veux t'enregistrer sur le CNED pour suivre des cours. Donc là, c'est pas eux, c'est pas l'école directe, mais ils te font voir vers des cours.
Et ils te disent bien que t'as aucun suivi CNED. Hein. C'est-à-dire que tu peux utiliser le site CNED gratos pendant un mois, mais que le prof fera aucun suivi, qu'il se passera rien. Quoi. Donc, bon.
Donc c'est complètement... Et puis, un coup, c'est mis sur école directe, leur site, là. Un coup, les profs, ils en vont en direct. Enfin, c'est complètement désorganisé, en fait.
Ouais, en même temps, ils n'ont pas eu beaucoup de temps, t'imagines?
Non, bien sûr.
Parce que là, ils ont dit qu'ils allaient le faire, vu qu'ils ont arrêté toutes les écoles, qu'ils allaient le faire, genre, pour toutes les écoles, là, mais je J'imagine même pas le prestataire là, il va juste exploser en bande passante. Enfin, ça va
non,
être.
Non, mais comme je vous disais, hein, on avait déjà mis à l'époque du SRAS, les ministères, les préfectures, les trucs un peu touchy, ils avaient mis en place plein de process pour télétravailler. Et c'est vrai que c'est incroyable qu'en 2020 ou en France, on se dise bon, alors comment nos 8 millions d'étudiants étudient?
Ouais. Il y a des trucs amusants quand même. Toi, là, aujourd'hui, mon fils, il a un contrôle de maths à distance. Donc, en fait, ils vont sur un site, c'est QCM, mais chacun a les questions dans le désordre pour pas qu'ils trichent ensemble. T'as un temps de réponse, bien sûr, qui est assez court globalement aussi. Donc, t'as pas les mêmes questions et t'as le temps qui t'empêche de parler aux autres sur tous les autres sujets qui sont passés. Et donc, ils continuent. Toi, la vie s'organise et voilà, ils ont des contrôles quand même. C'est pas juste des cours à distance, c'est aussi des notes. Donc ça se fait.
De parents, on passe à précepteur.
ouais, un peu. Hein. Un peu. Bah écoutez, hein, c'est intéressant, c'est nos premiers tests post-apocalyptiques.
Ouais, c'est ça.
Ça me rappelle Mad Max, tout ça.
Ah, ouais, bah, j'ai un outil de l'épisode. J'ai un outil de l'épisode. Je vous recommande la... Alors, attendez. Est-ce que vous vous rappelez... comment elle s'appelle? Attends, il faut que je vous trouve le truc. Quand vous étiez petit, est-ce que vous vous rappelez la Casio noire à trois boutons, qui, dont son petit nom s'appelle la F91W, qui était avec un bracelet en plastique noir, et puis bah, ça faisait chronomètre, alarme.
Oui.
Eh bien, figurez-vous qu'elle n'a jamais été arrêtée. Elle se fait encore. Il s'en vend à peu près 3 millions d'exemplaires chaque année. Et je ne sais pas pourquoi, j'étais un peu dans une shopping thérapie, moi, là, ces derniers temps. Et je m'en suis lâché une. Et figurez-vous que je n'ai à la recharger que tous les 7 ans. Et du coup, je vais pouvoir avoir l'heure pendant 7 ans après la fin de notre monde tel qu'on le connaît.
Tout ça pour 19 dollars.
Tout ça pour 12 euros. Incroyable, hein. Du coup, j'ai une montre qui donne l'heure et qui est capable... Il y a aussi un jeu, c'est-à-dire que tu essayes de démarrer le chronomètre et de l'arrêter exactement à 1 seconde 00, ce qui n'est pas facile parce que... Ah ben, on s'occupe comme on peut. Hein. Voilà, sur ces bonnes paroles, merci de nous avoir écoutés. D'ailleurs, s'il y a des profs qui sont un peu en galère, qui se disent « j'aimerais bien faire un podcast pour mes élèves, mais je ne sais pas comment on enregistre tout ça », n'hésitez pas à nous contacter commentaires@lescascodeurs.com et ben on essaiera de vous aider d'une manière ou d'une autre. C'est juste une bouteille à la mer. Si je suis prêt à aller discuter avec vous pour vous donner deux trois tuyaux là-dessus. Voilà, et ben sur ce, à la prochaine fois, et puis et ben bon courage à tout le monde dans ces temps un petit peu, enfin même carrément compliqués. Ciao,
bisous tout le monde.
Ciao. Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express. www.touilleur-express.fr